Interview.
Bonjour, ici Erdivois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Pierrick Tabouret, bonjour.
Bonjour.
Et de Thomas Béchet.
Bonjour. Bonjour.
Tous les deux, vous êtes ici pour nous parler de la 14e édition de la Dromoise qui va se dérouler dans le Diwa du 17 au 19 septembre, donc du vendredi au dimanche 19 septembre. Et donc une dizaine de courses seront proposées pour tous les niveaux et puis accompagnées aussi d'activités annexes et d'animations pendant ce long week-end. Alors, Pierrick Tabouret, vous êtes le directeur de cette Dromoise. Qu'en est-il pour l'édition 2021, consécutivement à celle de 2020 qui était amoindrie avec ces problèmes de contraintes sanitaires?
Alors, on va dire qu'on est sur une bonne lancée. On a eu une édition l'an dernier. On a un peu essuyé les plâtres parmi les organisateurs avec en septembre une ouverture et, au niveau Covid, et donc on a pu réaliser la Dromoise l'an dernier, malgré le Covid et les conditions sanitaires. Et cette année, bon, on va dire que l'axe est un peu plus marqué et on va avoir, on va dire, des conditions qui sont bien précisées. Donc on sait que la Dromoise aura lieu avec le pass sanitaire qui sera demandé. Et à ce jour, on est à peu près à un peu plus de 600 inscrits, ce qui est déjà relativement bien. Je pense qu'on sera aux alentours de 1500-2000 participants. Pour une année Covid, ça serait vraiment une belle réussite, voilà un peu.
Je me tourne aussi à Thomas Béchet. Vous êtes le nouveau président donc de cette Dromoise. Comment se retrouver avec cette responsabilité?
On se retrouve avec plein d'envie. On se retrouve avec une motivation énorme parce qu'on sait qu'on joint une équipe de 400 bénévoles qui sont tous investis à 150% pour que cet événement puisse se dérouler du mieux possible. Donc, on y va heureux. Et puis, comme disait Pierrick, on y va un peu plus serein depuis qu'on a un cadre bien défini par les autorités pour que tout se déroule au mieux. Donc, les 17, 18 et 19 prochains. Donc, on est très contents. Et puis, bon, même si la prise de pouvoir, entre guillemets, j'aime pas ce mot prise de pouvoir, mais bon, même si mes débuts en tant que président ont été un petit peu... pas difficile, mais c'était pas simple. On a tout fait par visioconférence, par coup de fil. Donc, j'ai été élu au mois de janvier au sein du conseil d'administration et j'ai rencontré physiquement les membres du conseil au mois de juin dernier. Donc, on a travaillé malgré tout, mais c'est vrai que pour démarrer, c'était pas simple. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, il y a une grosse équipe derrière et donc ça motive et on y va, quoi.
Alors, cet événement qui existe depuis 2007, donc, est quand même fait partie des plus grandes compétitions cyclosportives de France parmi les 10.
Oui, c'est ça. On est, dans les 10-15 plus grosses cyclosportives françaises, sachant que cette année, avec le Covid, toute la partie printanière, on va dire, avec les grosses étapes comme l'étape du Tour, où il y a à peu près 15 000 personnes, l'Ardéchoise également, qui est un de nos partenaires avec qui on collabore beaucoup sur de la méthodologie et autres, eux n'ont malheureusement pas pu avoir lieu à cause des conditions sanitaires, d'un confinement qui a eu lieu cette période-là. Donc on va dire qu'on profite d'une ouverture là, et on est heureux de se retrouver, de faire la fête avec un fil conducteur qui sera le vélo et puis avec à côté en plus l'échappée des rues, le festival de rue qui est pour la deuxième édition en partenariat avec la Dromoise. Donc voilà, et puis il y aura aussi les journées du patrimoine en même temps, donc un week-end qui va être effervescent et puis avec, on l'espère, beaucoup de vélos et de quoi s'amuser avec aussi un centre-ville qui sera adapté aux pratiques alternatives, c'est-à-dire le vélo, la rando à pied et autres, on va dire, pour se déplacer.
À l'heure actuelle, pour y participer, il y a toujours ces contraintes qu'il y avait l'année dernière pour les participants?
Oui, tout à fait. On demande à tous les participants soit d'avoir le pass sanitaire, soit de nous présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Ce qui permet en fait à toutes et à tous d'être dans un environnement. Il n'y a pas zéro risque, hein. On le sait que le risque zéro n'existe pas, mais on essaye de faire en sorte que toutes les précautions soient prises pour que tout se déroule au mieux.
Alors, je disais en début d'émission qu'il y avait une dizaine de courses réparties sur ces trois journées. La première journée étant la Dromoise en Baronnie provençale. Ça consiste en plusieurs circuits en fonction des compétences de chaque participant ou des capacités de chaque participant.
Alors en fait, la Dromoise est décomposée en trois étapes, il y a trois journées. L'idée, c'est d'avoir un coup de projecteur sur les trois zones majeures autour de chez nous géographiques. La première, c'est les Baronnies. Donc il y a un circuit sur les Baronnies, donc au départ de la Motte-Chalancon, avec donc un parcours de 110 km pour de la randonnée, et puis des personnes qui sont quand même affûtées, on va dire, pour faire 110 km au pied du Mont Ventoux. Et après, on bascule sur le samedi. Samedi, on est sur la Dromoise en Vercors, où là, on a quatre circuits. Deux qui vont en vélo de route sur le plateau du Vercors de 80 et de 115 km. Et puis deux autres qui sont les gravel, c'est-à-dire sur les pistes forestières. L'an dernier, ça c'est la nouveauté cette année. On a un deuxième circuit donc sur ce type de revêtement. Et donc on a un 27 km et également un 55 km. Et puis après on bascule le dimanche, qu'on a appelé la Dromoise classique, puisque c'est là où on retrouve le plus de monde, et qui concerne le Diwa au Diwa, avec cinq parcours, allant de la Dromoise en famille, 23 km, puis la Pétillante, 47, et puis après on continue jusqu'à la Panoramique, qui fait 84, la 119, donc la Préalpine, et puis pour conclure, l'intégrale qui fait donc 147 km. Alors cette année, petite particularité sur le dimanche, avec notamment la zone de Pont-de-Car, où on aura au retour, non pas à faire le classique retour le long de la vallée de la Drôme, eh bien les participants ont la chance d'aller du côté de la chance, ou en tout cas finiront en passant par le petit village de la Valdex, qui est une nouveauté. Voilà.
Et Thomas Bichet, vous voulez intervenir
sur les nouveautés. Donc Pierrick parlait du deuxième circuit de gravel, qui est un peu plus long et un peu plus ardu que le premier. On intègre dans cette course gravel, donc sur piste, le challenge inter-entreprise, comme l'an passé. Donc, ce qui permet à faire un esprit d'équipe sur cette. C'est pas vraiment une course, quoi. Il n'y a pas de chronomètre, mais voilà, c'est au nombre d'équipiers et le plaisir de rouler ensemble. Ce jour-là. Et donc le dimanche, comme disait Pierrick, on rajoute un petit plaisir sur la fin là, de presque 3 km à cause des travaux qui ont lieu sur la commune de Solor-en-Diois, qui ne seront pas finis. Et ces travaux nous obligent aussi à décaler en fait, le départ réel aussi de la course. C'est-à-dire que cette année, contrairement aux années précédentes, on partira toujours devant le cinéma Alpestel, mais ce sera ce qu'on appelle un départ fictif, un petit peu comme au Tour de France où on part en une sorte de procession de vélos qui vont s'élancer. Et à la sortie de Solor-en-Diois, on aura donc une personne référente qui donnera le départ réel de la course. Donc là, les vélos seront vraiment lancés, ce qui nous permettra de traverser le village de Solor en plein travaux de façon un peu plus lente, un peu plus sécure. C'était ça qui était important pour nous. Et ça ne dénature pas non plus l'esprit de la course, parce qu'on sait très bien que la course ne se joue pas sur les trois premiers kilomètres en sortant de dit, mais plutôt sur les premières ascensions. Donc voilà. Donc on aura un départ fictif d'environ 6 kilomètres.
Un petit peu moins.
Ouais. Et on lâchera les bêtes et les fauves juste après la sortie de Solor-en-Diois. Voilà.
Ces compétitions, il y a des passionnés de cyclisme qui s'y inscrivent. Est-ce que ce nombre de participations, ou du moins de personnes qui pratiquent la bicyclette, reste constant, ou il y a une augmentation de ce sport aussi ?
Alors, on va dire que on a deux publics. Hein, on a les cyclosportifs, c'est-à-dire ceux qui viennent pour le chrono. Donc ça, c'est le dimanche. Donc il y a les trois parcours les plus longs qui sont en cyclosportif. Donc ça représente à peu près un tiers des participants, c'est la Dromoise, en manière générale. Et puis les deux tiers restants, c'est ce qu'on appelait plutôt des randonneurs, des cyclotouristes, des personnes qui ne sont pas à la recherche du chrono, qui viennent se faire plaisir, que ce soit en famille, que ce soit avec leurs amis ou autres. Et eux, on va dire, on a vraiment un public qui est croissant, notamment parce que le vélo se développe beaucoup
beaucoup en ville, de par les, on va dire, la partie environnementale et puis le déplacement mode doux qui se développe beaucoup en ce moment, suite aussi à la crise Covid. Et c'est vrai qu'on a, c'est pas une transformation aussi nette, on va dire, au niveau des participants de la Dromoise, mais en tout cas, on a une évolution avec quand même beaucoup de randonneurs et de gens qui viennent pour, on va dire, profiter d'être au départ d'une épreuve et puis de discuter, de se voir. Ça fait du bien après une année et demie qu'on a eu avec le Covid. Voilà.
Et puis, je pense aussi qu'il y a ces randonneurs viennent aussi profiter donc des magnifiques paysages que nous offre notre territoire, mais aussi de l'ambiance qu'il y a tout au long des parcours avec les ravitaillements, les musiciens qui sont à chaque ravitaillement, les animations qu'il y a autour de la Dromoise chaque année. Donc, il y a vraiment toute une ambiance qui s'est créée et les gens viennent peut-être une première fois pour la course et puis reviennent ensuite pour le plaisir avec des amis, juste pour partager ensemble ce moment, quoi.
Nous pouvons passer à la seconde journée aussi pour annoncer donc les compétitions autour de la Dromoise en Vercors, ça s'intitule.
Oui, alors la Dromoise en Vercors, donc on est sur, il y a quatre épreuves, il y en a deux qui sont sur vélo de route, donc la Dromoise en Vercors qui va donc sur le plateau, qui part de Die, qui monte par le col de Rousset avec un parcours de 80 km et un autre de 115. Celui-là de 115 va notamment sur tout ce qui est centre Vercors, Comble-Laval notamment, col de la Machine, col de Carry, des endroits qui sont assez emblématiques pour les cyclistes. Et puis l'autre volet, c'est les deux autres parcours sur ce qu'on appelle la Gravel. Alors c'est un anglicisme, hein, désolé, c'est vrai que les habitués connaissent bien. Moi, je ne suis pas forcément pro terme anglophone, mais ça veut dire en gros, c'est un circuit sur piste forestière. Et comme on en a la chance d'en avoir des très belles dans le Diois, eh bien on a fait une première épreuve l'an dernier de 27 km. Et cette année, on l'a étoffé d'une boucle de 55 km qui va notamment du côté de la vallée de Quin, avec un très joli col, le col d'Anès, qui est un petit peu la petite Alpe d'Huez, on va dire, locale en sur piste forestière. Donc un petit défi. Et ces deux volets, voilà, donc sur les pistes forestières, partent une demi-heure après les épreuves du Vercors. Donc c'est-à-dire qu'à 9h, on a la Dromoise en Vercors sur route qui part avec les deux circuits de 80 et 115. Une demi-heure après, on a les deux autres circuits sur les pistes forestières qui partent, ce qui fait qu'à partir de midi, 1h, les personnes vont pouvoir venir manger et l'après-midi profiter des festivités, notamment de l'échappée des rues.
Un mot à dire pour cette deuxième journée, Thomas Béchet?
Le challenge inter-entreprise se fera sur ces parcours de la Gravel. Donc ça permettra des collaborateurs d'une même entreprise de se retrouver autour d'un moment un peu fédérateur, qui puisse se faire plaisir, qui puisse même entre eux se challenger un petit peu. Mais voilà, toujours dans la bonne humeur et puis sur des magnifiques tracés que sont allés chercher les bénévoles de la Dromoise aidés de Pierrick.
On peut peut-être parler aussi des associations qui permettent à cette Dromoise d'exister. Qu'en est-il justement par rapport à cette organisation?
Alors elles sont très nombreuses, les associations, mais on va dire que la Dromoise est engagée auprès de quatre associations locales, donc il y a un partenariat, donc les associations nous aident, et puis derrière, en tout cas, on essaie chaque année en tout cas de leur apporter aussi une aide, un retour financier. Il y a notamment Apache, il y a également La Bonne Aventure, Que du Bonheur dans le Diois, et puis le Secours Populaire, c'est les quatre associations, on va dire, avec lesquelles on est engagé. Et puis également, à côté de ça, on a notamment les Ours du Glandas, hein, on a le collectif aussi Piéton, et puis voilà, beaucoup d'autres associations qui viennent compléter.
On a notamment, au sein de nos bénévoles, une grande partie des travailleurs de l'ESAT de Recoubeau, qui sont toujours bien présents, qui répondent présents dès qu'on les appelle, ils sont là, ils sont motivés. Je sais que certaines années, il y en a deux ou trois qui doivent participer à une des courses. Voilà. Et puis les autres collègues, eux, viendront donner le main pour la signalisation, pour les aires de départ, les aires d'arrivée, les ravitaillements. Donc voilà, on a... C'est pas mal.
Voilà, et je complète parce qu'on parlait toujours du samedi. Le samedi, parmi les festivités, on aura notamment cette année place, on n'a pas trop parlé, mais place aux filles, honneur aux dames, on va dire, cette année. Et notamment, on accueille par l'intermédiaire de Marie Trocaz, qui fait partie maintenant de l'équipe d'organisation, eh bien, l'équipe Donnons des ailes au vélo. Si tu veux peut-être en parler, Thomas.
Oui, ce sont un groupe de 12 filles qui ont été sélectionnées pour mettre en avant le sport au féminin en général et en particulier le vélo, et qui se sont entraînées tout au long de l'année pour faire le Tour de France J-1. Donc en fait, elles ont fait exactement le même parcours que les hommes, mais un jour avant les professionnels. Donc Marie a eu la chance d'être sélectionnée et a pu faire partie de ces belles aventures. Et donc, en lien avec ce qu'a fait Marie, puisqu'elle s'est entraînée sur le territoire pendant toute l'année pour pouvoir faire ce Tour de France, on a eu envie de mettre en avant les femmes aussi. Et donc Marie viendra avec quelques-unes de ses collègues donc pour faire la course le dimanche, bien sûr, mais aussi le samedi après-midi pour faire un petit colloque et échanger sur cette expérience avec les gens qui voudront venir écouter et entendre cette formidable expérience qu'elles ont pu vivre et qu'elles nous ont fait vivre à travers les articles, à travers les publications sur les réseaux sociaux.
Ça sera donc à 15h au Méros, voilà, sur place Méros.
Je venais sur les associations parce que comment se décide aussi le parcours qui sont proposés pour les candidats et aussi comment se déroule justement cette mise en place et cette organisation auprès des communes alentours qui sont impliquées et aussi les circuits routiers. Il y a toute une organisation, ça nécessite beaucoup de temps, je suppose.
Oui, on y passe. Enfin, c'est un travail qui dure pratiquement un an. Hein. On est sur 10 mois de travail, on va dire à peu près, en amont. Tout d'abord, les circuits, ils sont faits pour privilégier la sécurité des coureurs. C'est-à-dire que dès qu'on peut privilégier un tourné à droite, c'est-à-dire qui nous permet de pas avoir à croiser, on va le faire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut qu'on puisse varier les plaisirs, un peu de montagne, un peu de plaine. On a de la chance d'avoir tout ça ici. Par rapport au passage dans les différentes communes, on est en lien avec les maires de chaque commune traversée sur le territoire d'Ivoire, à qui on demande l'autorisation de passage, ce qui est normal. Et puis ensuite, en lien avec la préfecture, les services de sécurité pour tout organiser. Donc là, c'est toute la partie dossier à remplir pour la sous-préfecture et la préfecture dont Pierrick se charge chaque année. C'est un gros boulot qui prend beaucoup de temps. C'est de la paperasse, mais qui est obligatoire. Et puis après, en lien avec les services de la ville de Die, les services des pompiers, la gendarmerie, voilà, des réunions on en aura une demain matin, jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, à 10 jours de l'épreuve, voilà, une dernière réunion de mise au point pour que tout se passe du mieux possible.
Je reviens aux parcours qui sont proposés. Est-ce qu'ils répondent aussi à des spécificités de ces compétitions cyclosportives, justement? Et donc, est-ce que c'est ça aussi qui décide des parcours?
Oui, en fait, on va dire que sur des formats cyclosportifs, on a en tout cas un cahier des charges qui est assez défini avec des temps de course pour les premiers. Donc c'est pour ça que sur les trois grands parcours du dimanche, 84, 119, 147 km, on est typiquement sur les temps de course, on va dire, qu'on retrouve ailleurs sur d'autres cyclosportives. Donc c'est voilà pour répondre. Et notamment le 84, on est sur les temps de course, on va dire, en 2h30 pour les premiers. Le 119, on est aux alentours de 3h15, 3h30. Et puis après, sur le 147, on est autour de 4h, 4h15. Voilà, on va dire qu'on est en gros dans les grandes échelles de 2h, 3h, 4h, voilà, sur ces formats de course. Voilà.
Nous venons sur dimanche, ensuite, le troisième et dernier jour, avec la Dromoise classique, donc.
Et donc, comme chaque année, un grand melting pot de coureurs en tout genre qui vont remplir toute l'avenue du Division du Texas jusqu'au premier magasin de la rue Biffardelle, en passant par le viaduc. Donc là, c'est un départ en groupe, en peloton, là, comme on a dit tout à l'heure, avec un départ fictif cette année en raison des travaux de Solor Andiwa. Toutes les courses partent en même temps, à 9h, tous les parcours, que ce soit la plus longue course donc des 147 ou la petite familiale. Et toutes reviennent par le même, pratiquement, on va dire, à part la familiale et la 47, reviennent par le même tour. On espère cette année encore avoir entre 1500 et 2000 participants. Ça serait vraiment bien, dans le sens où on table sur le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de cyclosportives qui ont pu avoir lieu cette année. Et donc forcément, certains sont impatients de pouvoir juste retrouver le contact des collègues sur le vélo lors d'une course, lors d'un événement. Voilà. Et le dimanche, il y aura aussi donc toutes les animations prévues par le Théâtre des Airs, qui est notre partenaire pour toute la partie culturelle, pour que, on va dire, pour que les accompagnants de ces coureurs cyclistes qui ne viennent pas forcément faire de vélo puissent s'occuper agréablement au sein de notre belle cité.
Et pour compléter, sur bien sûr aussi en même temps toutes les animations sur les ravitaillements. Hein, bien sûr, on est tellement habitué maintenant, c'est vrai qu'on a pas loin d'une quinzaine d'animations sur l'ensemble des ravitaillements. Donc c'est Ghislain Papin, voilà, que beaucoup connaissent, qui gère ça de main de maître sur cette partie artistique et avec principalement en plus des musiciens locaux. Donc c'est vraiment génial, c'est une grande fête. Mmh.
Et dès le début d'après-midi, les remises de prix sur la place de Méros. Là où les cyclistes pourront se restaurer après avoir bien sué et puis venir chercher leur récompense pour ceux qui auront fait la course et qui se seront bien placés.
Voilà, vous citiez justement le théâtre partenaire aussi pour l'échappée des rues, hein, des animations qui seront principalement sur quelle journée ?
Alors on sera sur le samedi dimanche, ça va attaquer, il y a une dizaine d'animations, quoi, de festivités, de spectacles vraiment, c'est plus que voilà. Avec, ça va débuter sur le marché de Die, si vous avez l'occasion d'aller voir sur le site de cyclodromoise.com/programme, vous avez donc tout le programme avec les liens, notamment vidéos et autres des spectacles. Et donc là-dessus, ça attaquera donc le samedi matin. Et puis, va se dérouler également le samedi après-midi sur la place Méros avec notamment deux spectacles, dont notamment Benoît Sharpe, qui est quelqu'un à titre perso que je veux voir depuis très longtemps. Ça fait 4-5 ans qu'on en parle sur la Dromoise pour essayer de le faire venir. Donc cette année, on est très content de le voir. Super spectacle avec du monocycle. Et puis, suivra derrière une soirée avec de la musique. Et également, le lendemain, on a encore 5 spectacles pour se terminer également au Théâtre Les Airs fin de journée vers 17h pour une dernière tournée, on va dire, dimanche 19.
Place du Méros, sont là disposés les campements pour les cyclistes avant le départ, je suppose, et les inscriptions. Et autour de ces stands, est-ce qu'il y a aussi d'autres représentations
Oui, alors cette année, on va faire venir plusieurs fabricants locaux, je dis locaux dans le sens régionaux, de matériel vélo. C'est-à-dire les fabricants, des personnes qui construisent des vélos, notamment avec des cadres aciers, de renommée, on va dire, sur des fabricants qui sont de Grenoble, Lyon et puis de Clermont-Ferrand. Donc on attend encore des réponses, mais normalement, voilà, on doit avoir des exposants de ce type-là. Et puis également, on va retrouver plusieurs partenaires pour parler un peu de lavande, parler de truffes, on a d'un trufficulteur qui vient, voilà, différentes stands qui vont aussi animer, hein, la place Méros.
Et puis bien sûr, donc sur cette place, les retraits des dossards, le podium, le départ arrivé du samedi pour la gravelle et pour la Drôme en Vercors. Et puis le parking vélo, quand les coureurs reviennent le dimanche d'avoir fait la course, ils ont un endroit pour poser leur vélo et aller tranquillement manger sous les auvents qui seront installés.
J'avais une question et puis je l'ai oubliée, c'est dommage.
Ça va revenir.
Oui, j'espère. C'était par rapport à quoi ?
Peut-être fabricants locaux, non ?
Je voudrais venir aussi sur le vélo en tant qu'objet. Depuis quelques décennies, il suit, ou du moins se transforme avec les nouvelles technologies de fabrication. Comment voyez-vous, vous, cette appropriation technologique sur ce type de véhicule ?
Il y a deux façons de voir les choses. Soit on voit le vélo comme juste un ustensile, entre guillemets, de déplacement d'un point A à un point B, sans chercher autre chose. Et donc à ce moment-là, effectivement, cette évolution technologique qui va de l'avant à grandes enjambées ne nous parle pas forcément. Et puis après, quand on pratique vraiment le vélo en tant que sportif et qu'on cherche un peu la performance, qu'elle soit simplement une performance personnelle, se dire je vais essayer de faire un peu mieux juste pour moi, ou une performance à plus haute échelle en disant je vais essayer de battre celui qui est devant, oui, on va s'intéresser à cette évolution. La plus grosse évolution, j'ai envie de dire, de ces dernières années, c'est quand même l'apparition du frein à disque sur tous les vélos, qui est, pour moi en tout cas, c'est vraiment ma façon de voir, un gage de sécurité vraiment extrême, puisque le freinage est parfait, quelles que soient les conditions météorologiques, quelles que soit l'état de notre jante, ça freine. Donc pour moi, c'est une bonne chose de toute façon, hein, à partir du moment où ça amène de la sécurité. Et puis si en plus derrière, on a un peu plus de plaisir, forcément, c'est très très bien. Après, je ne sais pas ce que Pierrick, lui, qui est plus professionnel là-dedans, voit dans cette évolution.
Oui, on a en tout cas, ça a été bien décrit. Ce qui se passe, c'est que le vélo aujourd'hui est un domaine qui est en pleine ébullition. Alors sur, on va dire, la partie pure sportive, on le voit avec des vélos qui peuvent monter à des prix même astronomiques parce que forcément on intègre du carbone, des choses comme ça, mais on peut très bien se faire plaisir avec des vélos, on va dire des tarifs tout à fait honnêtes, et sur une dromoise ça peut être un vrai plaisir. Après bien sûr c'est toujours des petits plus, c'est comme tous ceux qui pratiquent n'importe quelle activité, on peut aller faire de la musique, vous allez chercher une Fenders un peu plus pointue ou autre, et donc voilà, l'idée c'est on est en tout cas, on peut pratiquer facilement, et puis la partie on va dire plus vélo, rando, utilitaire, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent par exemple sur la Dromoise, qui viennent avec des vélos qu'ils utilisent au quotidien, et ça c'est tout à fait possible. Ouais.
D'ailleurs, les vélos, aujourd'hui, on peut en trouver dans toutes les qualités, du plus lourd au plus léger, et puis...
Non. Alors, il y a
une économie, une fabrication qui se tend vers...
Alors, c'est la petite particularité en ce moment, cette année, ça sera l'année prochaine un peu pareil, c'est qu'on a un marché qui s'est tellement développé qu'on a même des ruptures en fait, de stock actuellement. Tous ceux qui veulent acheter du matériel ou qui veulent en tout cas échanger... matériel vélo, sans rendre compte, comme dans d'autres domaines, c'est qu'on a des ruptures, on va dire, de stock. Et donc, c'est un effet de plusieurs facteurs liés au Covid, des usines qui ont ralenti, des pratiquants qui n'ont pas prendre le métro en ville sont mis à faire de plus en plus de vélos. Et donc, on a eu un 20-30% de plus de demandes, ce qui est énorme dans ce marché-là, qui était déjà dans des chiffres importants de croissance. Donc, c'est vrai qu'en fait, le vélo est en train... au niveau matériel, puisqu'on parle de la partie matérielle, est en train de pêcher un petit peu en ce moment par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut un peu faire attention à éviter de casser trop, parce que c'est difficile de trouver des pièces en ce moment. Mais bon, c'est plutôt signe que ça se développe et ça fait plaisir.
Sans être caricatural, je pense à ces véhicules d'aujourd'hui à moteur qui passent de plus en plus sous la technologie informatique et qui est moins réparable par le commun. Et donc, est-ce qu'on pourrait penser que la bicyclette tendrait à cette situation ?
C'est déjà le cas. C'est déjà le cas sur certains. Ben, on a maintenant des vitesses électriques, donc il n'y a plus de câbles. On a des freins à disque donc hydrauliques, donc pareil, purger des freins hydrauliques, ce n'est pas donné à n'importe quel amateur de vélo. Il faut le matériel, il faut la connaissance, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que après, si le frein ne fonctionne plus, ça peut être dangereux. Donc de plus en plus, effectivement, on arrive à... Alors, comme disait Pierrick, il y a deux mondes de vélos. Il y a le monde professionnel ou semi-pro ou même amateur, mais avec des gros moyens qui peut se permettre de se payer ce genre de bijoux, parce que ça, à ce prix-là, ce sont des bijoux. Et puis, il y a le cycliste moyen dans lequel je m'inscris qui a un vélo... de bonne qualité, mais qui est encore capable de le réparer sans avoir besoin de faire appel à un mécanicien. Mais on tend, oui, forcément, comme on améliore la qualité des vélos, on améliore la qualité des périphériques, donc freins, passage, transmission de vitesse, etc. Donc forcément, on monte d'un cran. Donc on n'est pas encore au niveau où tous les vélos sont équipés de freins à disque et de vitesse électronique, mais on va y tendre petit à petit, oui, forcément.
Avant d'y arriver, nous avons toujours la bourse au vélo proposée le samedi 14.
Alors, pas cette année, malheureusement.
Ah,
non, non.
Ouais.
Il y a deux petites animations qui n'auront pas lieu cette année, justement à cause des contraintes sanitaires, qui rendent compliquée la mise en place. Donc, la bourse au vélo, d'une part, qui pourra pas avoir lieu, et la vélo parade aussi, les raisons sanitaires qu'on connaît, les organisateurs qui s'occupent de ces deux parties là qui sont en collaboration avec nous ont dit cette année on préfère passer, c'est trop de contraintes, c'est trop compliqué, c'est trop de choses à gérer qu'on veut pas avoir à gérer, parce qu'on est là pour le plaisir, on n'est pas là pour gérer des problèmes et des soucis. Donc ils ont préféré se mettre de côté cette année en nous promettant de revenir dès que ce sera possible.
Et pour compléter, il y a déjà une équipe avec Gislain, Anne puis et Laure, tout ça, qui travaille déjà sur des coiffes pour les casques, pour un habillage on va dire des casques. Donc elles ont déjà fait une centaine de coiffes, ils veulent essayer d'arriver à peu près 300 pour que l'an prochain, la prochaine vélo parade, qu'on espère réalisable l'année prochaine, eh bien, puisse se faire dans les meilleures conditions et avec chacun un petit souvenir de la Dromoise. Donc, c'est en cours, pas pour cette année, mais 2022.
L'association, la Dromoise, elle agit pour, principalement pour cette rencontre de septembre. Est-ce qu'en parallèle, il y a des petites actions que vous menez aussi tout au long de l'année ?
Alors, la Dromoise, en fait, ce n'est pas que la Dromoise, hein, c'est une antenne du club cycliste de Die. Et le club cycliste, dont le président est un Olivier, travaille lui essentiellement sur l'apprentissage et la pratique du vélo chez les jeunes et les moins jeunes aussi, parce qu'il y a une équipe de vétérans qui roule bien, et donc organise des courses en lien aussi avec je crois le lycée, le collège, mais Pierrick pourra m'en dire plus par rapport à la Dromoise junior. Voilà, mais la Dromoise nous occupe essentiellement, mais après, au sein du club, il y a d'autres actions. Et Pierrick travaille aussi au niveau du club avec les jeunes.
De formation, oui. On a 70 jeunes, notamment, chaque année. Et on se retrouvera au forum des associations encore pour promouvoir la pratique du vélo. Oui.
Il y a les partenaires officiels, hein, les collectivités, la région, la Drôme, le Pays d'Ivoire et la ville de Die qui sont aussi partenaires d'emblée pour l'organisation déjà, mais aussi pour un soutien un peu autre.
Oui, bah alors les institutions, donc l'État qui est représenté par Madame le sous-préfet, nous accompagne dans tout ce qui est montage du dossier pour vérifier qu'on soit dans les clous, nous met en lien avec les services de gendarmerie avec qui on a un partenariat financier pour la sécurité du dimanche. Et puis ensuite, effectivement, la région, le département, la ville et la communauté de communes nous aident et financièrement, et la ville de Die logistiquement aussi. Donc on peut compter sur la ville de Die depuis le début pour tout ce qui est matériel, barrières, la présence des policiers municipaux pour faire un peu de circulation le samedi et le dimanche. Donc voilà, c'est pas que des partenaires financiers, c'est aussi des gens qui nous font de la pub, hein, directement sur le site du département. On peut retrouver un petit mot sur la Dromoise à chaque début du mois de septembre, la région aussi. Donc ils sont des partenaires importants financiers, c'est certain, mais ils sont aussi là, notamment la mairie de Die et la sous-préfecture, pour nous accompagner pour tout ce qui est organisation et logistique.
Alors, on avait aussi annoncé au départ, au début d'émission, ce soutien que vous avez pour certaines associations. On les a citées, Apache, La Buenaventure, Que du Bonheur dans le Divois et le Secours Populaire Français. Est-ce que vous tendez à développer cet aspect-là, ou alors comment voyez-vous ça ?
Oui, en fait, c'est du donnant, du partenariat gagnant-gagnant, j'allais dire, dans le sens où l'idée, c'est qu'on puisse essayer d'apporter, voilà, par les participants de la Dromoise qui reversent 2 euros chacun à une des associations, et bien qu'on puisse les aider, comme ils ont besoin, de forcément, comme toute association, et bien de deniers. Et puis en même temps, voilà, en contrepartie, ben, s'ils peuvent être avec nous pendant l'événement, on va dire que c'est tout gagnant pour l'ensemble des équipes. Ouais.
Et puis on les met en avant justement le dimanche, le jour de la remise des prix. Voilà, on parle d'eux, on leur met une petite fenêtre pour que les gens qui connaissent pas forcément ces associations puissent les voir, puissent les rencontrer. Et voilà, en plus c'est une image du Diwa en plus que l'on donne pendant ces journées.
Et puis, à côté de ça, on parle d'engagement de la Dromoise, hein, et il y a aussi l'événement responsable avec le covoiturage. Vous l'encouragez, ça, pour le public et les participants ?
Bien sûr, on est depuis longtemps, en tout cas, sur ce créneau-là. Alors, c'est vrai que on va pas plus loin dans le sens que l'information, c'est-à-dire qu'on met en relation via un espace sur le site de la région pour les personnes qui veulent se développer, notamment en région, et venir se déplacer, et venir de partout en région en covoiturage, parce que c'est un effort, en tout cas. C'est un geste, on va dire, qui est naturel, on va dire, et qui est encore sous-employé au niveau des cyclistes. Donc on met, voilà, un lien sur le site de covoiturage de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis également, on va pas plus loin, on va dire, au niveau, nous, de la démarche, parce que c'est un vrai métier de développer le covoiturage, et qu'on le laisse aux structures qui sont capables. On est notamment en lien sur Cré, un cabinet, bref, ça va me revenir, qui s'occupe aussi de tout ce qui est covoiturage en professionnel. professionnels. Et donc, on a un lien voilà, de communication avec eux voilà, sur Dromolib. Voilà, ça me revient. Désolé, Morgane Régnier.
En parallèle, il y a les ravitaillements respectueux. Donc là, c'est pareil, on ne trouvera plus les bouteilles en plastique. Sur bord de route, les cyclistes étant dotés chacun de leur bidon avec des réapprovisionnements par citerne. Et puis, certains verres qui sont réutilisables, c'est ça ?
Tout à fait, oui. Déjà dans le règlement, les cyclistes savent qu'ils doivent garder leur détritus dans leur poche, c'est-à-dire leurs papiers de barres de céréales, etc. sur eux. À chaque ravitaillement, ils ont de quoi pouvoir remettre de l'eau dans leur bidon. Ils vont avoir de quoi se restaurer, de prendre dans leur poche. Il y aura des poubelles. Donc voilà, le but, c'est vraiment de respecter notre territoire qui est quand même magnifique. Après, dans l'ensemble, il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais on est quand même dans un sport où les gens sont en communion avec la nature, que ce soit les vététistes ou que ce soit les cyclistes sur route, et qui viennent pour profiter du paysage. Ils sont en vélo, ils ne sont pas en moto, en voiture ou en hélicoptère pour découvrir. Donc, ils sont vraiment dans cette idée de, on profite, l'air est frais, le paysage est beau, donc on ne va pas aller jeter un paquet de pépito sur la route parce que ça nous prend de la place dans la poche. Non, là, il y a largement de quoi faire pour eux au niveau des ravitaillements pour poser leur détritus au départ de la course sur l'aire de Méros. Donc tout est prévu justement pour respecter tout ça. Et ils le savent bien puisque dans le règlement, s'ils sont pris la main dans le sac, ils sont directement éliminés.
L'alimentation aussi, fabrication locale de préférence.
Oui, sur les trois repas qu'on a, on est sur on est en tout cas sur tout à fait des personnes, des structures locales, notamment le vendredi avec la table d'Angèle, et puis le samedi avec Richard Ferrier de Super 8, du 8 à 8, et puis le dimanche, on est avec toute une équipe de bénévoles qui s'affairent pour faire le repas, notamment avec des ravioles. Enfin, on n'est qu'avec des produits quasiment que locaux. Sur les ravitaillements, on va retrouver aussi également des petits saucissons, des wasalaisons, également de la ferme de Craponne sur du fromage, tout ça. Donc voilà, l'idée, elle est de mettre en avant ce qu'on sait faire chez nous et très bien faire.
Voilà, vous parliez des bénévoles. Sans eux, il n'y aurait pas d'organisation non plus. Comment ça se passe? Et ils sont au nombre de combien à vous donner la main pour ça?
On a la chance de compter sur 400 bénévoles environ. Entre 380 et 410 selon les années. Comment ça se passe? On a de la chance d'avoir des gens qui ont compris l'intérêt d'avoir un tel événement sur le territoire. C'est une belle carte postale de notre territoire. Ils prennent plaisir à faire partie de cette manifestation et à voir que les gens prennent plaisir à venir et revenir chaque année. On se réunit deux à trois fois par an. C'est normalement en février pour le repas des bénévoles. Cette année, on a décalé en juin à cause de la situation sanitaire que tout le monde connaît. Mais on les retrouve deux à trois fois par an. Dernièrement, on les a vus pour faire le point sur les conditions de travail entre guillemets qu'on aura le week-end de la Dromoise. Chacun a son rôle, chacun connaît son poste et tout le monde essaye de jouer le jeu au maximum pour c'est ça. Je pense que on est tous dans le même état d'esprit de donner la meilleure image possible de notre territoire. Territoire d'accueil, ça on le sait tous. On met en avant notre savoir-faire, notre générosité et notre gentillesse.
Et puis pour l'information aux compétiteurs, s'il y a inscription encore ? Tout à fait. Ça se fait par le site internet.
Voilà, principalement sur cyclodromoise.com, sur l'onglet inscription. Et puis également par papier, s'ils le souhaitent, jusqu'au samedi, une semaine avant l'épreuve, pour les épreuves du vendredi du samedi, avec une inscription papier qui s'envoie à l'office de tourisme de Die. Et puis par contre, on avait annoncé que les inscriptions peut-être sur place ne seraient pas possibles pour le dimanche, mais finalement on a eu une bonne surprise, c'est que la fédération nous autorise à prendre des inscriptions sur le périmètre de Méros à partir du moment où on est avec le pass sanitaire. Donc la bonne nouvelle, c'est que les gens pourront encore s'inscrire pour le dimanche, le samedi après-midi et le dimanche matin pour les randonneurs.
Eh bien, Pierrick Tabouret et Thomas Béchet, je vous remercie tous les deux d'être venus nous présenter la Dromoise 2021 et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.